Dans le vertige des toutes dernières années, Ursula n'avait disposé que de très rares moments de répit pour s'occuper de la formation papale de José Arcadio, quand on s'avisa qu'il fallait préparer en toute hâte son départ pour le séminaire. Sa sœur Mémé, partagée entre la raideur de Fernanda et l'amertume d'Amaranta, arriva presque en même temps à l'âge auquel on avait prévu de l'envoyer en pension chez les sœurs, où on ferait d'elle une virtuose du clavecin. Ursula se sentait en proie à de graves incertitudes sur l'efficacité des méthodes par lesquelles on avait adouci et désarmé l'esprit de l'apprenti souverain pontife, si languide. Mais elle n'en imputait pas la faute à sa vacillante vieillesse, non plus qu'aux épaisses nuées, qui lui laissaient à peine entrevoir le contour des objets, mais à quelque chose qu'elle-même ne parvenait pas à définir en clair et qu'elle imaginait confusément comme une détérioration progressive du temps.
« Les années de maintenant ne sont plus comme dans le temps »,
avait-elle coutume de dire, sentant la réalité quotidienne lui échapper des mains. Autrefois, pensait-elle, les enfants tardaient beaucoup à grandir. Il n'était que de se souvenir du temps qu'il avait fallu pour que José Arcadio, l'aîné, s'en allât avec les gitans, et de tout ce qui s'était passé avant qu'il ne revînt peinturluré comme une couleuvre et s'exprimant comme un astronome. Et des événements qui s'étaient produits à la maison, avant qu'Amaranta et Arcadio n'oubliassent la langue des Indiens pour apprendre à parler espagnol. Il n'était que de revoir toutes ces journées de soleil et ces nuits à la belle étoile qu'avait supporté le pauvre José Arcadio Buendía sous son châtaignier, et tout le temps qu'il avait fallu pleurer sa mort, avant qu'on amenât le colonel Aureliano Buendía, moribond, lequel, au sortir de tant de guerres et après qu'on eut tant souffert pour lui, n'avait pas encore atteint la cinquantaine. Jadis, après toute une journée passée à confectionner de petits animaux en caramel, il lui restait encore du temps pour s'occuper des enfants et voir dans le blanc de leurs yeux s'ils avaient besoin d'une potion à l'huile de ricin. À présent, au contraire, alors qu'elle n'avait rien à faire et qu'elle déambulait du matin au soir en portant José Arcadio à califourchon sur sa hanche, cette baisse de qualité du temps l'obligeait à laisser les choses à moitié. La vérité était qu'Ursula s'entêtait à ne pas vouloir vieillir, alors même qu'elle ne se rappelait plus son âge, et qu'elle était toujours là où il ne fallait pas, essayant de fourrer son nez partout, importunant les étrangers à force de leur demander s'ils n'avaient pas laissé en garde à la maison, du temps de la guerre, en attendant la fin de la pluie, un Saint-José en plâtre. Nul ne put dire de science certaine quand elle commença à perdre la vue. Jusque dans les dernières années de sa vie, alors qu'elle ne pouvait plus sortir de son lit, elle avait l'air tout simplement vaincue par la décrépitude, mais personne n'avait découvert qu'elle était devenue complètement aveugle. Elle-même s'en était rendue compte bien avant la naissance de José Arcadio. Au début, elle croyait qu'il ne s'agissait que d'un affaiblissement passager, et elle prenait en cachette du sirop de moelle ou se mettait du miel d'abeille dans les yeux, mais elle ne tarda pas à être convaincue qu'elle s'enfonçait irrémédiablement dans les ténèbres, à tel point qu'elle n'eut jamais une notion très exacte de ce que fut l'invention de la lumière électrique, car lorsqu'on installa les premières ampoules, elle ne pouvait qu'en deviner vaguement l'éclat. Elle n'en dit rien à personne, car c'eût été donné à reconnaître publiquement qu'elle était devenue inutile. Elle se lança avec obstination dans un discret apprentissage de la distance de chaque chose et de la voix de chacun, afin de continuer à voir de mémoire ce que ne lui permettait plus de distinguer les nuées opaques de la cataracte. Plus tard, elle devait découvrir le secours inattendu des odeurs qu'elle se mit à percevoir dans les ténèbres, avec une force beaucoup plus convaincante que les volumes et les couleurs, et qui la sauvèrent définitivement de la honte qu'il y aurait eu à renoncer. Dans l'obscurité de sa chambre, elle était capable d'enfiler une aiguille et de faire une boutonnière, et elle savait quand le lait sur le feu était sur le point de se sauver. Elle acquit une connaissance si infaillible de l'emplacement de chaque chose qu'elle en oubliait parfois elle-même sa cécité. Un jour, Fernanda ameuta toute la maison parce qu'elle avait perdu son anneau de mariage, et ce fut Ursula qui le découvrit sur une étagère dans la chambre des enfants. Tout naturellement, tandis que les autres allaient et venaient de tous côtés sans faire attention, elle les surveillait à l'aide des quatre sens qui lui restaient, afin que nul ne la prît en défaut, et elle put découvrir au bout d'un certain temps que chaque membre de la famille répétait quotidiennement, sans s'en rendre compte, le même itinéraire, les mêmes gestes et presque les mêmes paroles à heure fixe. Ce n'est que lorsqu'il s'écartait de cette routine réglée dans le moindre détail qu'il courait le risque d'égarer quelque chose. Si bien qu'à entendre Fernanda se lamenter sur la perte de son alliance, Ursula n'eut qu'à se rappeler la seule variante dans ses faits et gestes de ce jour-là, à savoir qu'elle était allée exposer au soleil les nattes où dormaient les enfants parce que Mémé, la nuit précédente, avait découvert une punaise dans la sienne. Comme les enfants assistaient au nettoyage, Ursula pensa que Fernanda avait dû poser son alliance au seul endroit qu'il ne pouvait atteindre, sur l'étagère. Fernanda, au contraire, ne la chercha que sur le trajet de ses allées et venues quotidiennes, sans savoir que la recherche des objets perdus est entravée par la routine, les habitudes qui font qu'on a tant de mal à les retrouver. L'éducation de José Arcadio aida Ursula dans cette tâche épuisante qui consistait pour elle à se maintenir au courant des moindres changements intérieurs à la maison. Quand elle se rendait compte qu'Amaranta était en train d'habiller les statues de saints de la chambre à coucher, elle feignait d'enseigner à l'enfant les différences entre les couleurs.
« Voyons voir, » lui disait-elle. « Dis-moi un peu de quelle couleur est vêtu Saint-Raphaël l'archange. »
Ainsi, l'enfant lui fournissait-il le renseignement dont la privaient ses yeux, et bien avant qu'il ne partît pour le séminaire, Ursula était devenue capable de distinguer en palpant le tissu les différentes couleurs des vêtements des saints. Parfois se produisaient des incidents imprévus. Un après-midi, Amaranta brodait sous la véranda au bégonia quand Ursula vint buter contre elle.
« Pour l'amour de Dieu !» protesta Amaranta. « Faites attention où vous allez !»« C'est toi qui n'es pas assise à ta place !» lui répondit Ursula.
Pour elle, cela ne faisait aucun doute. Mais ce jour-là, elle commença à se rendre compte d'une chose dont personne n'avait eu vent jusque-là. À savoir qu'au fil des mois, le soleil changeait imperceptiblement de position et que ceux qui s'installaient sous la véranda devaient eux aussi changer de place, peu à peu, et sans même s'en apercevoir. Dès lors, Ursula n'avait qu'à se rappeler quel jour et en quel mois on était pour connaître l'emplacement exact où était assise Amaranta. Bien que le tremblement de ses mains fût de plus en plus perceptible et qu'elle pût à peine se traîner, jamais on ne vit sa petite figure toute rabougrie en autant d'endroits à la fois. Elle était presque aussi active et empressée qu'à l'époque où elle avait toute la maison sur les bras. Pourtant, dans l'impénétrable solitude de son arrière-vieillesse, elle bénéficia d'une telle clairvoyance pour examiner jusqu'aux plus insignifiantes péripéties de l'histoire de la famille que pour la première fois, elle put faire toute la lumière sur des vérités que ses occupations d'autrefois l'avaient empêchée de bien voir. À l'époque où l'on préparait le départ de José Arcadio pour le séminaire, elle avait déjà effectué une récapitulation infinitésimale de ce qui avait été la vie de la maison depuis la fondation de Macondo, et avait complètement révisé l'opinion que depuis toujours elle s'était faite sur ses descendants. Elle se rendit compte que le colonel Aureliano Buendía ne s'était pas endurci à la guerre au point de perdre tout amour de la famille, comme elle le croyait jadis, mais qu'il n'avait jamais aimé personne, pas même Remedios son épouse, ni les innombrables femmes d'une nuit qui étaient passées dans sa vie, et ses fils encore bien moins. Elle crut deviner que ce n'était pas par idéalisme, comme tout le monde pensait, qu'il avait livré tant de combats, ni par fatigue, comme pensait tout le monde, qu'il avait renoncé à la victoire imminente, mais qu'il avait gagné et perdu pour le même motif, par pur péché d'orgueil. Elle en arriva à la conclusion que ce fils pour qui elle aurait donné sa vie n'était qu'un être incapable d'amour. Une nuit qu'elle le portait encore dans son ventre, elle l'avait entendu pleurer. C'était une plainte si distincte que José Arcadio Buendía, qui dormait à côté d'elle, se réveilla et se réjouit à l'idée que l'enfant allait être ventriloque. Il se trouva d'autres gens pour prédire qu'il serait devin. Elle-même, en revanche, fut prise de tremblement, convaincue que ce profond grognement était le premier indice de la terrible queue de cochon, et elle pria Dieu qu'il lui laissât mourir ce rejeton dans le ventre. Mais la clairvoyance de son infinie vieillesse lui permit de constater et de se répéter à de nombreuses occasions que les pleurs d'enfants dans le ventre de leur mère n'étaient pas signes de ventriloquie ni de faculté divinatoire, mais annonçaient sans risque d'erreur des êtres incapables d'aimer. Cette dévalorisation de son image éveilla en elle toute la pitié qu'elle s'aperçut de voir à son fils. Amaranta, dont la dureté de cœur l'épouvantait si fort et dont l'amertume concentrée l'affligeait, lui apparut au contraire à la faveur de cette ultime révision comme la femme la plus aimante qui eût jamais existé. Et elle comprit avec une lucidité attendrie que les injustes tourments qu'elle avait fait subir à Pietro Crespi ne lui avaient pas été dictés par quelque désir de vengeance, comme tout le monde pensait, et que ce n'était pas le fiel de son amertume, comme pensait tout le monde, qu'il avait décidé à faire de la vie du colonel Guérinaldo Marquez un lent martyr, Mais qu'en l'un et l'autre cas, ça avait été une lutte à mort entre un amour démesuré et une invincible lâcheté, qui s'était soldée par le triomphe de cette peur irrationnelle qu'inspirait depuis toujours à Amaranta son propre cœur déchiré. C'est vers cette époque qu'Ursula commença à appeler Rebecca par son nom, à l'évoquer avec une vieille tendresse exaltée par le repentir tardif et une soudaine admiration, ayant compris que seule Rebecca, celle qu'elle n'avait jamais nourrie de son lait, mais qui mangeait la terre de la terre et la chaux des murs, celle dans les veines de qui ne coulait pas le même sang qu'en ses veines, mais le sang inconnu de gens inconnus dont les ossements continuaient à caqueter dans leur tombe, cette Rebecca, au cœur impatient, au ventre avide, avait été la seule à posséder cet implacable courage qu'elle avait tant espéré trouver dans sa propre progéniture.
« Rebecca, disait-elle en tâtonnant le long des murs, comme nous avons été injustes envers toi. »
À la maison, on se borna à penser qu'elle radotait, surtout depuis qu'il lui prit de se promener avec le bras droit levé comme l'archange Gabriel. Fernanda eut néanmoins conscience qu'il y avait comme un soleil de grande lucidité dans l'ombre épaisse de ce délire, car Ursula était capable de dire sans hésiter combien d'argent on avait dépensé à la maison durant l'année écoulée. Amaranta eut presque la même idée le jour où elle vit sa mère à la cuisine, en train de remuer la soupe dans une marmite, s'écrier soudain, ignorant qu'on l'écoutait, que le moulin à maïs, acheté jadis au premier gitan, et qui avait disparu bien avant que José Arcadio n'eût fait 65 fois le tour du monde, se trouvait encore chez Pilar Ternera. Bientôt centenaire, elle aussi, mais robuste et agile malgré son incroyable obésité qui faisait peur aux enfants comme autrefois son rire effrayait les colombes, Pilar Ternera ne fut pas surprise de voir combien Ursula avait deviné juste. Car sa propre expérience commençait à lui indiquer qu'une vieillesse en éveil permet de mieux discerner les choses que toutes les investigations dans les cartes. Cependant, du jour où Ursula se rendit compte qu'elle n'avait pas eu le temps de bien consolider la vocation de José Arcadio, elle se laissa abattre par la consternation. Elle commença à commettre certaines erreurs en voulant voir avec les yeux des choses que l'intuition lui permettait de distinguer avec plus de clairvoyance. Un matin, croyant que c'était de l'eau de fleurs, elle versa sur la tête de l'enfant le contenu d'un encrier. Sa manie de fourrer son nez partout fut à l'origine de tant de disputes et d'incidents qu'elle se sentit toute perturbée par la mauvaise humeur qu'on déversait sur elle. Et elle essaya de se délivrer de ces ténèbres qui avaient fini par s'enrouler autour d'elle comme une camisole tissée par une araignée géante. C'est alors qu'il lui vint à l'esprit que sa maladresse ne constituait pas la première victoire de la décrépitude et de l'obscurité, mais une défaillance du temps. Elle se disait qu'autrefois, quand le bon Dieu ne trichait pas avec les mois et les années comme les Turcs lorsqu'ils mesuraient une onde de percale, les choses étaient différentes. Maintenant, non seulement les enfants grandissaient plus vite, mais les sentiments eux-mêmes évoluaient d'autres manières. À peine Remedios Labelle était-elle montée au ciel corps et âme, que déjà, sans plus d'égards, Fernanda s'en allait ronchonner dans son coin parce qu'elle avait emporté les draps. À peine les cadavres des Aureliano s'étaient-ils refroidis dans leur tombe que, sans plus attendre, Aureliano le second avait de nouveau illuminé la maison, remplie d'ivrognes qui jouaient de l'accordéon et barbotaient dans le champagne, comme si ça n'était pas des chrétiens mais des chiens qui venaient de mourir. Et comme si cette maison de fous, qui avait coûté tant de migraines et tant de petits animaux en caramel, était prédestinée à devenir la décharge publique de toutes les perditions. Se remémorant tout cela tandis qu'on préparait la malle de José Arcadio, Ursula se demandait s'il n'était pas préférable qu'elle se couchât une fois pour toutes au fond de sa sépulture, et qu'on jetât de la terre sur elle, et sans peur, elle demandait à Dieu s'il croyait en vérité que les gens étaient en fer pour supporter tant de peines et de mortifications. Et de demande en demande, elle ne faisait qu'accroître son propre scandale, et se sentait l'irrépressible envie de se laisser aller à dégoiser comme un amerloc, de se permettre enfin un instant de rébellion, l'instant si souvent désiré et tant de fois différé de se mettre la résignation quelque part et de se ficher de tout une bonne fois, et de se soulager le cœur des tonnes et des tonnes de gros mots qu'elle avait dû ravaler durant tout un siècle de longue patience.
« Carajo !» s'écria-t-elle.
Amaranta, qui commençait à disposer les vêtements dans la malle, crut qu'un scorpion l'avait piqué.
« Où est-il »
demanda-t-elle alarmée.
« Quoi ?»
« La bestiole !» expliqua Amaranta. Ursula se posa un doigt à l'endroit du cœur.
« Ici !»
répondit-elle. Un jeudi à 2 heures de l'après-midi, José Arcadio partit pour le séminaire. Par la suite, Ursula devait toujours l'évoquer comme elle l'imagina alors en lui disant adieu, tout languide et sérieux, s'abstenant de verser une seule larme comme elle lui avait appris, étouffant de chaleur dans son costume en velours côtelé vert à boutons de cuivre et avec son ruban à midonné autour du cou. Il laissa la salle à manger tout imprégnée de la pénétrante odeur d'eau de fleurs qu'elle lui mettait sur la tête pour pouvoir le suivre à la trace dans la maison. Tout le temps que dura le déjeuner d'adieu, la famille dissimula sa nervosité sous des apparences enjouées et applaudit avec un enthousiasme exagéré aux bons mots du père Antonio Isabelle. Mais quand on emporta la malle doublée de velours à coin d'argent, ce fut comme si on avait sorti de la maison un cercueil. Le seul à refuser de prendre part aux adieux fut le colonel Aureliano Buendia.
« Il ne nous manquait plus que ça comme emmerdement, bougonna-t-il. Un pape !»